Succession sur Marie, à Rimont, le 23 avril 1994, 8e conférence, par le père Marie-Dominique Philippe.
Je continue ce que je vous disais il y a un instant, puis on reprendra les questions après. Il y a un aspect théologique là qui est très important à souligner pour comprendre l'alliance de l'époux et de l'épouse, l'alliance du Christ et de l'Église, l'alliance du Christ et de Marie à la croix, puisque Marie, elle est l'Église. C'est vrai, elle est le fruit le plus parfait du mystère de la croix. Les théologiens au Moyen-Âge, les grands théologiens du Moyen-Âge, ont affirmé, et là je prends saint Thomas, étant donné qu'il est quand même le plus grand du Moyen-Âge, ont affirmé que, étant donné le mystère de l'union hypostatique, donc le mystère de l'incarnation, le Verbe est devenu chair, il y a dans l'âme du Christ, dans l'âme créée, dans l'âme humaine du Christ, il y a une plénitude de grâce. De sa plénitude, nous avons tous reçu. Et cette plénitude de grâce dans l'âme de Jésus, à cause du mystère de l'union hypostatique, atteint tout de suite son sommet. C'est pour ça qu'ils disent que Jésus n'a pas grandi dans la grâce sanctifiante. Il a simplement grandi dans son expérience. C'est évident que l'expérience que Jésus a connue à la croix, au plus intime de son cœur, c'est la plus grande expérience que l'homme a pu connaître. Personne n'a connu une qualité d'expérience d'amour telle que celle de Jésus à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Une expérience d'amour qui atteint un sommet. Et étant donné la plénitude de grâce, cette grâce atteint tout de suite son terme, c'est-à-dire qu'elle atteint ce pourquoi elle est faite, la vision béatifique. Il y a dans l'âme du Christ, dans les sommets de l'âme du Christ, dit saint Augustin, il y a dans les sommets de l'âme du Christ, il y a la vision béatifique. Par le fait même, Jésus n'a pas connu le mystère de la foi, ni le mystère de l'espérance. Il n'y avait en lui qu'une plénitude de charité. L'âme du Christ était tout de suite dans ses sommets, dans un état de gloire. Mais son corps et son âme, en tant qu'informant son corps, étaient capables de souffrir. L'expression est très forte que prennent les théologiens du Moyen-Âge. Il était in via. Il impliquait un certain devenir. Il était sur la route de la vision béatifique. C'est pour ça que l'ultime expérience que Jésus a connue, c'est d'offrir sa vie dans l'amour pour glorifier le Père et nous sauver. Et sauver Marie, victimale, puisqu'il s'était dans la vision béatifique. Et c'est pour cela qu'on peut dire que l'Esprit Saint a voulu que Marie achève au plus intime de son âme, elle qui connaît la foi, l'espérance et la charité, elle a pu compléter, achever l'état victimal du Christ. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens n'acceptent pas cela. J'attends leur canonisation. Avant de me mettre à leur école. Parce qu'ils ne voient pas avec suffisamment de profondeur le mystère de l'union hypostatique. Alors ils ne comprennent pas du tout ce que saint Augustin, ce que saint Thomas dit, et ce que beaucoup d'autres, Bellarmin le dit aussi. Et Bellarmin, c'est proche de nous, hein, comparativement à Thomas d'Aquin. C'est la science déjà plus moderne. C'est à partir de notre siècle où on a cultivé énormément les sciences humaines et la psychologie qu'on l'applique à Jésus. Ce que je crois impossible. Mais ils le font. Disent cela. Vous voyez, ce n'est pas en partant du mystère de l'union hypostatique, mais c'est en partant d'une anthropologie. Vous savez bien ce que dit Karl Rahner, qui a joué un très grand rôle au Concile. Un père jésuite, ils étaient deux, les Rahner. Karl Rahner dit que la théologie moderne remplace la métaphysique par une anthropologie. Ce qu'a fait Kant. Les Allemands ont beaucoup de peine à redécouvrir une métaphysique après Kant. C'est vrai, c'est... Heidegger a senti le besoin de dépasser Kant, mais Rahner, Karl Rahner, n'a pas éprouvé le même besoin. Un étudiant de Fribourg faisait une thèse sur la théologie de Rahner et lui a écrit. Il est venu voir, il m'en a parlé, c'est pour ça que je peux le dire. Il lui a écrit, je voudrais beaucoup savoir quel est votre Dieu, quelle est votre philosophie que vous utilisez pour votre théologie. Et Karl Rahner a répondu, je n'ai pas de philosophie. C'est-à-dire qu'il était conscient. Je n'ai qu'une anthropologie. Il voulait dire, je n'ai pas de métaphysique, je n'ai qu'une anthropologie. Alors, l'anthropologie, c'est à partir de l'homme qu'on regarde Jésus. La vision des grands théologiens du Moyen Âge jusqu'au début de notre siècle. Voyez toujours la théologie du Christ dans la lumière du prologue de saint Jean. Le Verbe est devenu chair. Cette vision moderne s'est faite à partir de l'hégélianisme, à partir de la philosophie hégélienne. des plus grands théologiens protestants, pour ne pas dire le plus grand. Karl Barth dit que Hegel, c'est le plus grand théologien luthérien. Et ce très grand théologien luthérien a une très très grande influence sur toute la théologie allemande. Et la théologie française est terriblement influencée par la théologie allemande. C'est un fait. Dire que tous les théologiens français qui sont un peu en vedette aujourd'hui sont sous l'influence de Hegel. Alors, c'est très intéressant de voir ça, parce que pour Hegel, évidemment, il n'y a pas de métaphysique. On est dans le devenir. C'est le mouvement. Et c'est l'anthropologie. Et par le fait même, on applique cela à Jésus, au mystère du Christ, pour rejoindre au terme le mystère de la vision béatifique du Christ. Et au terme, on dit qu'il a cheminé avec la foi sur la terre. On dit ça pour le mettre plus proche de nous. Vous savez, cette parole terrible d'un grand littérateur français qui disait « Marie, je l'aime beaucoup, mais je voudrais tellement qu'elle ne soit pas immaculée parce qu'elle serait plus proche de nous. » Vous voyez bien, c'est qui ça, hein? Et c'est ça, la conviction, très pieusement, pas du tout en opposition vis-à-vis du mystère de Marie, mais tout simplement pour qu'elle soit plus proche de nous. Oubliant que plus on est proche de Dieu, plus on est proche du prochain que tu as mis sur notre route. Qu'est-ce qui fait les incompréhensions entre deux frères? Ce sont leurs péchés. Et qu'est-ce qui fait leur unité? C'est l'amour qu'ils ont pour le Christ. Et plus cet amour pour le Christ est fort, plus ils sont un. Et donc Marie étant immaculée, peut-être la digne mère de Jésus. Étant la digne mère de Jésus, elle peut être, à partir de la croix, notre mère. Marie est plus proche de nous grâce à son mystère de l'Immaculée Conception que si elle était comme nous, née dans le péché. Mais voyez ça, psychologiquement parlant, on a beaucoup de peine à comprendre ça. Dès qu'il y a le primat psychologique, on ne comprend plus. Et alors on ne peut plus saisir que Jésus est plus proche de nous parce qu'il a la plénitude de grâce et la vision béatifique dans les sommets de son intelligence et qu'il est au-delà de la foi. Alors que, psychologiquement parlant, on dit « Jésus est plus proche de nous parce qu'il a comme nous la foi. » C'est très curieux cette mentalité, hein, mais on comprend très bien au point de vue psychologique, mais pas au point de vue profond. Bon, personnellement, je crois que c'est très dangereux de faire une théologie en se servant de Hegel. Parce que ce n'est plus une théologie contemplative. C'est une théologie du devenir. un excellent sycomore. Parce qu'il est grand. Il nous permet de voir loin. Alors, si vous ne voulez pas voir Jésus, n'utilisez pas le sycomore. Et broutez l'herbe. Il faut se servir de Tomanaquin comme d'un frère aîné. Quelle vision étonnante. Vous voyez, quelqu'un comme, je cite souvent ça parce que je crois que c'est important de se le rappeler, quelqu'un comme Karl Barth, protestant luthérien, dit Hegel, premier théologien luthérien, le plus grand théologien luthérien, c'est celui qui a parlé de la façon la plus étonnante du mystère de la Très Sainte Trinité. Mais peut-être que Thomas d'Aquin va plus loin. Il faut se rappeler ça. Hein. Parce que aujourd'hui, des quantités ne veulent plus regarder Thomas d'Aquin. Alors, c'est bon de regarder ce témoignage d'un Karl Barth que tout le monde respecte. Parce qu'il est très respectable. Mais Thomas d'Aquin est encore plus respectable. Il va sûrement plus loin que Karl Barth. Il va sûrement beaucoup plus loin que Hegel. Mais il est moins à la mode. Pas beaucoup. Hegel est à la mode. Aujourd'hui, si on ne connaît pas Hegel, on est un pauvre type. Alors, il faut prendre ce que Hegel a de bon et le citer au bon moment. Ah, intelligent, il cite Hegel. Tandis que si vous citez Thomas d'Aquin, non. Vous voyez, tout dépend si on cherche la vérité, la contemplation, ou si on s'adapte à la mode. Vous savez, on l'a dit plus d'une fois que les théologiens étaient plus susceptibles à la mode que les femmes. Oui, faut pas l'oublier ça. Alors quand les femmes font de la théologie, oui, c'est très curieux ça. Être à la page. Oui, la plus grande injure qu'on peut faire à un philosophe et à un théologien, vous n'êtes pas à la page. Alors il faut riposter, suis-je dans la vérité? Parce que être à la mode, ça ne veut rien dire. Vous savez, quand on est attentif à la mode, et le philosophe doit être attentif à la mode, on voit que pendant 10 ans, on supprime les chapeaux et on les reprend. C'est extraordinaire, ça. Et on reprend des grands chapeaux agrandis par la distance. Alors, on se dit quand même, où est la vérité? Ça m'amuse beaucoup et c'est intéressant de ces choses-là parce que ça vous donne un peu d'humour, vous venez pour être à la mode. Oui. Dans 10 ans, on reprendra les théologiens du Moyen-Âge. Alors soyez en avance. Parce que ça commence le déclin, vous savez. Ça commence, c'est assez fort le déclin aujourd'hui. De la théologie contemporaine. On va dans le fossé. C'est difficile là, d'avancer quand on est dans le fossé. Pas commode. On est obligé de sortir de l'auto et puis d'aller tout doucement quand on est encore debout. Alors, si je prends la position de Thomas d'Aquin, elle est tellement belle. L'âme du Christ, tout de suite, à la vision béatifique. Et c'est pour ça que Marie est vraiment la compagne de Jésus. Marie, vivant le mystère de la croix, dans une telle unité avec Jésus. dire dans l'obscurité de la foi et dans la pauvreté de l'espérance. Marie vivant ce mystère de la croix avec cette intensité d'amour. Par la foi, notre intelligence peut être offerte à Dieu. Par l'espérance, les désirs les plus fonciers de notre volonté peuvent être offerts à Dieu. Alors, grâce à Marie, Jésus peut offrir l'âme humaine, l'homme, dans sa plénitude. Lui, offre cet amour brûlant qui lui permet de vivre le mystère de la croix. Et par Marie, son intelligence humaine peut être totalement offerte, puisque Marie vit le mystère de la croix dans la foi. Et Marie peut offrir les désirs les plus profonds, les plus légitimes de la volonté humaine. Par l'espérance. Alors, je voudrais un tout petit peu, voyez, réfléchir avec vous sur la foi de Marie à la croix. Et l'espérance de Marie à la croix. Puisque Vatican II nous dit que Marie est le modèle de notre foi. Vatican II le dit, hein. Elle est le modèle de notre espérance. Si Marie est le modèle de notre foi, de notre espérance, il faut essayer de comprendre le mystère de la foi en Marie. Et c'est le mystère de la foi de Marie au pied de la croix, comme à l'Annonciation, qui nous fait comprendre la plénitude de foi de Marie, la plénitude de son espérance, et comment elle est notre modèle. Et c'est très fort, ça, et c'est très beau. À l'Annonciation, l'ange lui a dit qu'elle serait la mère du Fils du Très-Haut, qu'il régnerait sur la maison de Jacob éternellement. Marie à la croix voit Jésus rejeté des grands prêtres, rejeté de son peuple. Et donc, si Marie comparait ce que l'ange a dit à l'Annonciation, parce que ce que l'ange a dit à l'Annonciation est présent dans le cœur de Marie à la croix. La croix est une nouvelle annonciation. Et donc cette première annonciation est présente dans le cœur de Marie. Et quand Marie regarde la réalité visible, il ne règne pas du tout sur la maison de Jacob éternellement. Il est rejeté. Alors si je compare, il y a une sorte de contradiction terrible entre les deux. Or vous savez, quand on est en face d'une contradiction, qu'est-ce qu'on fait? On libère notre intelligence en jetant ça, vous avez tous remarqué que quand Marie répond à l'ange, Marie ne répond pas « Oui, j'accepte d'être la mère de Dieu. » Elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Tellement plus fort. On accepte que la foi soit pour notre intelligence humaine toujours obscure, inintelligible. Parce que d'une intelligibilité qui me dépasse complètement, ça vient de Dieu directement. Ça vient du mystère de la très sainte Trinité directement. Si Marie avait répondu « Oui, j'accepte d'être la mère de Dieu », elle aurait accepté le message de l'ange. Ce qu'elle a compris au message de l'ange. Elle n'aurait pas accepté le message de l'ange tel qu'il lui était donné. Vous voyez, ça peut vous paraître un peu subtil, mais c'est capital cette différence. Tant qu'on n'a pas compris ça, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. On est tout le temps installé le pouls. Elle dit, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est bien ça? Et on n'avance plus. On est ligoté. On a un fil à la patte. Vous voyez, dire à l'ange, oui, j'accepte d'être la mère de Dieu. C'est répondre à l'ange selon ce qu'elle a compris. Dans un contrat humain, c'est normal, pas dans une alliance divine. C'est ça qui est le grand mystère de la foi. Dans le mystère de la foi, vous ne dites pas à Dieu, j'accepte ce que je comprends. Quand vous dites ça, c'est plus la foi. Vous acceptez ce que vous comprenez. Or, le mystère de la foi, c'est justement un dépassement par rapport à ce que nous comprenons. On adhère au mystère, au-delà de la parole. Tandis que quand on s'arrête uniquement à ce qu'on comprend, on n'adhère pas au mystère. On adhère à ce qu'on comprend du mystère de Dieu. Lorsque vous comprenez du mystère de Dieu, comme ce que je comprends du mystère de Dieu, ce n'est rien du tout. Comparativement au mystère. Le mystère va infiniment plus loin. Et nous découvrons le mystère, toujours. Il n'y a jamais de répétition dans notre vie divine. Vous voyez, quelquefois, quand vous lisez l'Écriture, « Ah oui, je connais !» Non, vous ne connaissez pas en lisant l'Écriture. Parce que l'Écriture nous conduit au mystère de Dieu. Et le mystère de Dieu, nous ne le connaissons pas. Il n'y a que les petits enfants qui entrent dans le royaume de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu en disant « Tiens, je connais déjà », vous regardez ce que vous avez compris et vous n'entrez plus dans le mystère. Il faut comprendre que le mystère nous conduit et que ce n'est pas nous qui mesurons le mystère par ce que nous comprenons. Et c'est là la grandeur de la foi, c'est qu'il y a un dépassement par rapport à ce qu'on comprend. Et on donne la main à Dieu, à Jésus, à Marie, pour aller au-delà de ce que nous comprenons. Pour adhérer au mystère, puisque le mystère nous est donné. Alors ceci, ça devient très clair quand on regarde Marie au pied de la croix. Si Marie s'était arrêtée à ce qu'elle avait compris du mystère de l'Annonciation, le mystère de la croix aurait été pour elle un scandale et de la folie. Parallèlement au mystère de l'Annonciation. Regardez le mystère de la croix. Si vous comprenez donné. Et c'est dans ce sens-là qu'elle a pu l'adorer. Je crois ça très important pour nous. Alors, Jésus, regarde Marie quand elle vit cette complémentarité de son holocauste. Femme, voyez la profondeur de ce regard de Jésus sur Marie. Femme, c'est Marie vivant le mystère de la croix. Marie, compagne du Christ, épouse son cœur douloureux, offrant sa vie en même temps que Jésus. C'est plus difficile pour Marie d'offrir Jésus que d'offrir sa vie. Or, elle offre Jésus. En offrant Jésus, elle offre sa vie. C'est ça son espérance. Elle offre Jésus, qui est toute son espérance. Marie n'a mis aucune espérance en elle. Son espérance est en Jésus. À travers son espérance divine, obscure, elle offre Jésus. Tous les désirs de son cœur. Ce regard de Jésus sur Marie, femme, montre la profondeur du regard de Jésus. Et Jésus dit, femme, voilà ton fils. Jésus explique ou explicite la réalité du mystère de la compassion. Marie est tellement unie à Jésus que le fruit du mystère de la croix est aussi le fruit de son cœur. Tous les deux, Jésus et Marie, peuvent regarder Jean comme le fruit de la croix. Il est vraiment le fils de Jésus à la croix, fils bien-aimé. Il est vraiment le fils de Marie, fils bien-aimé. Tout le mystère de la croix engendre à la vie divine, Jean. Tout le mystère de la compassion engendre à la vie divine, Jean. Jésus, en disant à Marie, « Femme, voilà ton fils », et disant à Jean, « Voilà ta mère », Jésus exprime de la manière la plus simple, la plus forte, combien l'offrande de la croix est source de la vie de Jean. Cette offrande de la croix, elle est vécue dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie. Ils sont tous les deux cause, source de cette nouvelle vie pour Jean. Ils coopèrent l'un et l'autre à la même réalisation. La sainte de Jean et à travers Jean la nôtre et à travers la nôtre celle de l'Église. Jésus à sa demande. Permets que dans ton royaume, il soit à ta droite. C'est une réponse magnifique de Jésus pour la mère. La mère selon la chair et le sang de Jean le disciple bien-aimé. Dans son royaume, il est le frère bien-aimé de Jésus, puisqu'ils sont la même mère. Et donc l'intimité avec Jésus est bien plus grande que si Jean était le premier ministre du royaume. Il est le frère. Et la mère comprend ça tout de suite. Jésus. Essayons de comprendre à partir de ce moment de la maternité de Marie sur Jean. Qu'est-ce que représente cette maternité voulue par Jésus et vécue à la croix, proclamée par Jésus, dans le cœur de Jean, pour nous, c'est pour nous. Alors que représente cette maternité? Comprenez que nous avons une icône magnifique, l'icône chrétienne de la très sainte Trinité à la croix. Et ça nous aidera de comprendre ce que doit être Marie pour nous. Cette icône, c'est Jésus, Marie, Jean, l'icône de la très sainte Trinité. Vous voyez, nous regardons nous tout le temps l'icône étonnante du jeune de Membrée. Les trois jeunes gens. C'est très beau. Elle est de l'Ancien Testament. L'icône du Nouveau Testament, c'est Jésus, Marie et Jean. Elle est autrement plus grande et plus pénétrante. Jésus à la croix, il est notre Père. Puisqu'il est source de vie, source de grâce, source de lumière et source d'amour. Il est source de lumière, source d'amour pour Marie. Et Marie est toute donnée à la croix. Elle ne fait plus qu'un avec Jésus. Lui donner. Et Jésus et Marie sont source de vie et de lumière et d'amour pour Jean. Vous voyez bien le mystère de la très sainte Trinité qui se prolonge dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Marie, dans le cœur de Jean. Et c'est vraiment l'icône, l'image la plus parfaite de la très sainte Trinité pour nous, la plus merveilleuse. Et c'est très étonnant, on voit ça dans toutes les églises, mais c'est très étonnant ce que la Providence a fait ici. Ça, il faut le reconnaître, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la Providence. De voir ce Christ. Je sais que ça choque certains, pas d'eux d'ici, mais j'ai reçu plus d'une fois des remarques là-dessus. Vous pourriez pas remettre des bras au Christ crucifié? Et je réponds, c'est l'état de l'Église aujourd'hui. Elle est sur la croix. Elle est comme ça. Ce Christ, on l'a reçu d'un frère, porté ce Christ, lui. C'est pour ça qu'on l'aime. Et puis on sent combien ça a été raviné, abîmé. Le visage du Christ dans l'église aujourd'hui. La petite Vierge Marie, toute petite, et Jean. laisse Marie vivre jusqu'au bout ce que son cœur de femme transformée par la grâce, mère de Jésus et mère des hommes, peut donner. Le sacerdoce ministériel, lui, il est lié à la paternité. Il faut essayer de comprendre ce que Marie a été pour Jean. Pour comprendre ce que Marie doit être pour nous. L'évangile de Jean ne dit qu'une seule chose, mais cette chose est merveilleuse dans sa force. Il l'a pris chez lui. Jean a pris Marie chez lui. Chez lui. C'est pas seulement une grâce. C'est pas seulement quelque chose de gratuit. C'est plus, c'est le don d'une personne et d'une mère, et le don de la mère au moment où elle est le plus mère divinement. Elle offre son fils à la croix, elle s'offre en même temps que lui, elle est toute donnée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie